Merci Madame la Présidente. Je souhaite à mon tour la bienvenue à cette délégation de Nouvelle-Zélande. Je salue l'héritage progressiste de votre pays qui a été consolidé ces dernières années et qui se traduit en termes généraux de manière très positive. Un taux d'emploi des femmes à 67% en 2022, un salaire minimum qui vient d'être réévalué, une participation de 53% des femmes dans les conseils d'administration du secteur public, un taux de chômage aux environs de 5% et une disparité salariale qui, tout en étant aux alentours de 8%, reste un excellent résultat dans le monde. Pour autant, et l'analyse de votre rapport et vos propres commentaires le démontrent, la persistance de discrimination frappe de manière directe et significative singulièrement les femmes issues des minorités, notamment Maori, mais aussi les îles des îles du Pacifique, et les femmes victimes de discrimination spécifique, à l'image des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d'asile. Alors, ma première question concerne la clarification. En 2019, vous avez mis en place une stratégie globale sur l'emploi, appuyée sur 7 plans d'action, qui ont été d'ailleurs actualisés, et qui ont été déployés, notamment vers certaines populations, pour assurer une vraie sécurité à l'emploi et surtout la possibilité de cumuler aussi des activités rémunérées et non rémunérées, notamment pour les femmes, ce qui est très important. Il y a eu également un plan visant la population du Pacifique particulièrement et les femmes migrantes. Quelle est véritablement l'évaluation de ces plans? Vous avez évoqué dans vos propos liminaires la nécessité d'avoir un nouvel outil. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, l'évaluation n'est pas suffisante, l'efficacité non plus? Quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en œuvre? Est-ce que, par exemple, vous pourriez sortir du volontariat et faire en sorte qu'il y ait des mesures plus contraignantes vis-à-vis notamment des entreprises, ou bien, par le biais d'indicateurs et de rapports annuels, une obligation de transparence et d'engagement de la part des entreprises? Tout particulièrement en matière d'égalité salariale, parce que visiblement sur ce terrain, il y a un défaut d'efficacité. Et je pense que ce que vous avez dit là encore ce matin pour réduire les disparités doit être renforcé. Ma question donc concerne l'application effective de ces dispositifs, notamment pour les populations les plus discriminées. Et la nécessité, encore une fois, d'utiliser, y compris les nouvelles technologies de l'innovation, pour analyser d'une manière beaucoup plus fine le marché, les barrières, et agir en sorte. Deuxième élément, les violences et le harcèlement. Nous en avons parlé à un autre titre, mais aujourd'hui, les enquêtes de la Commission des droits de l'homme démontrent la prégnance de ces violences au niveau du marché du travail et dans le cadre du travail, environ 38% de femmes. C'est considérable et il n'y a pas de définition du harcèlement dans la loi. C'est une lacune qui entraîne d'ailleurs la non-ratification par la Nouvelle-Zélande de la Convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement. Pouvez-vous vous engager à ratifier cette convention et également les autres conventions de l'OIT touchant les travailleurs et travailleuses au sein du travail? Pouvez-vous également préciser les mesures qui touchent les secteurs les plus sensibles, notamment ceux de la santé, du tourisme, qui sont effectivement peut-être les plus vulnérables et en tout cas dominés par les femmes? Pouvez-vous préciser également le rôle de WorldSafe, qui effectivement est en charge de la surveillance et notamment de la sécurité et de la santé au travail? Et avez-vous des chiffres sur le nombre de plaintes dont est saisie la Commission des droits de l'homme sur le harcèlement? Là encore, est-ce que le projet de loi qui avait été envisagé en 2021 pour renforcer la lutte contre le harcèlement est aujourd'hui d'actualité? Troisième élément, la vie professionnelle et vie personnelle. J'ai beaucoup apprécié dans votre rapport et dans ce que nous savons sur votre pays, les essais de meilleure conciliation, même d'intégration de la vie personnelle et professionnelle. Est-ce qu'il y a sur ce terrain des réflexions qui touchent particulièrement la question précisément des femmes et qui peuvent aller par exemple vers une réorganisation du travail, semaine de 4 jours ou flexibilité accentuée. Ce serait intéressant de comprendre vos initiatives et comment le congé parental peut être aussi mieux utilisé. Deux derniers sujets, le déséquilibre entre les secteurs. Le secteur des services emploie 85% de la main-d'œuvre, mais le secteur agricole reste également fort. Quelles sont les mesures que vous prenez pour rééquilibrer véritablement l'ensemble des secteurs en ce qui concerne le travail des femmes, et notamment dans les secteurs d'innovation qui sont à croissance rapide? Je pense en particulier aux énergies, aux technologies de l'information, bien évidemment, et à l'intelligence artificielle. Sur les processus de décision, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit en introduction. La question des postes de direction dans le secteur privé pose encore des difficultés, comme partout dans le monde d'ailleurs. Là encore, est-ce que nous allons produire une feuille de route avec la recommandation générale 40, mais il sera intéressant peut-être de mener un effort particulier, pourquoi pas effectivement avec l'introduction de quotas contraignants. J'en termine vraiment avec deux points. L'action en faveur de l'entrepreneuriat. Je voudrais que vous développiez, si c'est possible, l'innovation qui consiste à proposer aux peuples autochtones un accès à la propriété intellectuelle pour le savoir et l'expertise qui sont véritablement des trésors pour l'humanité et qu'ils possèdent. Et dernière chose, pour l'action extérieure, je vous félicite pour l'intégration des femmes à haut niveau. Mais est-ce que la diplomatie féministe ne serait pas un vecteur supplémentaire ? Merci.